Merci Armand, merci d'abord pour cette invitation. Parce que quelque part, c'est la première fois que je suis invité à faire une conférence, enfin une intervention publique à Strasbourg sur cette question. C'est pourtant un travail que j'ai fait il y a presque 35 ans. Oui, alors ça fait un peu bizarre, je dois quand même rappeler qu'Armand a été le premier à publier un article, en tous les 4 mois, sur cette question dans le, dans le Bruder Flood, et la même année, effectivement, j'ai publié un autre article dans une publication que l'on faisait, notamment avec Charles et Jean-Claude Meyer, et les cahiers de l'Alsace rouge. Et depuis, j'ai publié effectivement à la suite de ce mémoire de maîtrise deux articles, un article dans la revue d'Alsace sur les conseils de soldats et d'ouvriers en novembre 18 en Alsace. Je dis bien conseil de soldats et d'ouvriers parce que c'est le terme qu'il utilisait. On n'utilise jamais le terme de soviet ou qui est un anachronisme. Je dis ça parce qu'il y en a peut-être qui, si vous avez la curiosité d'aller voir sur Internet, il y a un article sur la révolution de novembre 18 et dans cet article il y a une longue polémique sur savoir s'il faut dire soviète ou pas soviète, si c'est communiste ou pas communiste, des questions de ce type-là. Donc je voudrais donner... Donc là, c'est clair, le mot soviète n'apparaît strictement jamais, à ma connaissance, tous les cas. Le terme usuel, c'est conseil de soldats et d'ouvriers. Après, il y a eu, à part ces deux articles, très peu de choses. C'est revenu quelque part sur le tapis à l'occasion du 90e anniversaire, notamment à la suite du travail fait, entre autres, par Jacques Fortier dans les dernières nouvelles d'Alsace, puisqu'il a fait toute une chronique sur les conditions du passage du Reichsland à la France, qui était relativement documentée, et dans ce cadre-là, il avait été amené, effectivement, à redécouvrir cette période, ce qui l'a amené à publier ce roman policier qui fait suite à celui qu'il avait consacré au Königsbourg. La même année, il y a un réalisateur, c'est un projet relativement ancien, Jean-Noël Delamarre, qui a fait un 52 minutes qui a été, je ne sais pas où il est passé, s'il a été diffusé sur une chaîne, je crois qu'il a été diffusé sur France 3, mais j'en suis pas sûr, quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale, qui est une mise en perspective plutôt bien faite, sans parti pris, c'est-à-dire qu'il donne et juxtapose les points de vue par rapport à cette question, disons, des conditions dans lesquelles se fait cette transition entre la France de l'Alsace, entre l'Allemagne et la France, puisqu'il y a effectivement autour de... C'est une question qui est très débattue, même si elle a... avec des thèses très divergentes, et la thèse dominante, c'est que... l'une des thèses les plus radicales, qui est présentée en partie par Fessel dans l'article de Cézanne d'Alsace que Armand vous a montré, l'idée, c'est que ce serait été une manœuvre de l'Empire allemand pour conserver l'Alsace à l'Allemagne, ce qui est une vision extrêmement, et heureusement que l'armée française s'est précipitée et a sauvé des rênes, des griffes allemandes, l'Alsace. En gros, ça c'est la thèse, je caricature à peine. Ceci dit, l'article de Fessel est relativement bien documenté, il y a toute une série d'éléments qui sont extrêmement importants. Il avait dû s'appuyer sur un dossier d'archives qui existait au musée historique et qui, curieusement, a disparu. C'est-à-dire que je n'ai jamais retrouvé le dossier sur lequel, et personne n'a retrouvé le dossier sur lequel il s'appuyait. Monsieur Kahn, dire qu'il y a un complot, c'est pas tellement... Non. J'avais fait ce travail, puisqu'effectivement je m'intéressais à la fois à l'histoire ouvrière de l'Alsace et quelque part à ce qu'on pourrait appeler la question alsacienne. Et là on est dans une conjoncture tout à fait particulière où effectivement se croise d'une part un mouvement social extrêmement et politique extrêmement puissant de conseils de soldats qui vont balayer en quelques jours l'Empire allemand, hein, puisque en gros ça se passe entre le 30 octobre, le début des émeutes, l'insurrection, la mutinerie des marins à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, où était concentrée une partie de la flotte impériale, et le 10 novembre, donc c'est un très peu de temps, où il y a comme un raz-de-marée sur l'ensemble de l'Allemagne, partout, absolument partout, se constituent des conseils de soldats. Et dans le prolongement de la formation de ces conseils de soldats, se forment des conseils ouvriers. Et évidemment, l'Alsace, enfin, le Reichsland, n'échappe pas à ce mouvement d'ensemble. Alors souvent, on parle de ceux qui connaissent quelque chose, un tout petit peu de cette période. Bon, on sait vaguement qu'il y a eu quelque chose à Strasbourg, qui se cristallise dans cette image du drapeau rouge qui flottait sur la cathédrale, mais ce qu'on ignore, c'est que c'est un mouvement qui a touché absolument toute l'Alsace et toute la Lorraine. Ce n'est pas seulement Strasbourg. Il y avait des conseils dans toutes les villes d'Alsace et de Lorraine. Il y avait, y compris dans les petites villes, hein, et dans les, voire, oui, de toutes petites villes où il y a eu des conseils de soldats et d'ouvriers. Donc, le conseil de soldats, en tous les cas. Le conseil d'ouvriers, c'est autre chose. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je vais l'aborder tout de suite. Se pose effectivement un problème pour les conseils d'ouvriers, c'est qu'une grande partie de l'appareil de production est paralysée par la guerre. Donc, le secteur industriel reste relativement limité. Les grands chantiers, c'est surtout des chantiers avec des jeunes qui font du remblayage derrière le front, et puis quelques entreprises absolument qui continuent à tourner parce qu'elles sont nécessaires pour l'industrie de guerre et évidemment le réseau ferré. Hein, et puis, ça c'est pour l'Alsace, hein, donc très peu de l'appareil industriel tourne au ralenti, et d'autre part sur la Lorraine par contre, là, il tourne quelque part à plein régime, puisque c'est une industrie, l'industrie sidérurgique et les mines, qui sont étroitement liées, sont absolument nécessaires à l'effort de guerre du Reich. Donc, voilà en gros. Et évidemment, on peut penser que c'est un moment anecdotique, puisque quelque part, c'est un temps très très court. Hein. Les premiers conseils où l'agitation autour dans les casernes démarre le 8, c'est surtout à partir du 9 que commencent à se constituer ces conseils de soldats et d'ouvriers, dans toute l'Alsace.
Novembre.
Non, la mutinerie, c'est le 30, à la suite d'un ordre qui est donné par l'amiral de la flotte impériale qui veut aller tailler des croupières aux Anglais. Et les marins savent que de toute façon c'est perdu et n'ont pas envie d'aller livrer une bataille toute problématique, aux Anglais. Alors il faut savoir, alors je fais, puisqu'on m'a dit que c'est sous forme de table, que c'est pas nécessairement structuré, alors je ne vais pas faire structurer. Il faut savoir qu'il y avait énormément de. J'avais un plan là tout, maintenant mais je mets pour 2 heures, donc c'est pas la peine. Il faut savoir qu'il y avait un assez grand nombre de marins qui étaient d'origine d'Alsace et de Lorraine. Hein, il y avait, en général, on donne le chiffre de 16 000. J'ai retenu dans mon mémoire le chiffre de 16 000. Je dois avouer que je ne l'ai jamais vérifié, mais ça doit être vérifiable. Donc il y a 16 000 Alsaciens qui étaient dans la marine, dans la marine impériale. Pourquoi il y avait beaucoup d'Alsaciens proportionnellement? Pour deux, alors qu'on est très loin de la mer quand même en Alsace, donc ça a créé d'ailleurs une vocation de marin en Alsace, puisque chaque fois qu'il y a un sous-marin qui coule, ben, il y a des Alsaciens. Je ne sais pas si vous avez, regardez, hein, il y a toujours des marins alsaciens. Donc il y a quand même une tradition qui s'est créée à partir de ce moment-là. Et donc 16 000 marins, parce que d'une part, la marine nécessite aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Et souvent, ils étaient comme ouvriers qualifiés dans cette marine. Et puis deuxièmement, ils ne sont pas en contact avec le front. Les risques, de désertion, en particulier, il y a eu de nombreuses désertions sur le front de l'Ouest, en particulier au début de la guerre, et c'est une façon de résoudre la question de la désertion possible de ces soldats. Et Par ailleurs, s'explique la mutinerie de 18, donc beaucoup d'ouvriers qualifiés. On sait que ces ouvriers qualifiés formaient, en règle générale, la colonne vertébrale du mouvement ouvrier en France comme en Allemagne. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une conscience politique relativement élevée. Et tout au long de la guerre, il y a eu des mouvements. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Jean Knittel, qui a été longtemps le rédacteur en chef des dernières nouvelles, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace, et qui raconte qu'il était à Danzig, et pendant l'hiver 17, puis il voit tout d'un coup débouler des marins, une manifestation de marins avec drapeau rouge, et chantant pas seulement l'international, mais aussi la Marseillaise. Il y avait parmi eux, effectivement, alors là, il y a une ambiguïté, parce qu'on sait que la Marseillaise, c'était aussi un chant, du mouvement ouvrier allemand. C'est-à-dire que dans le mouvement ouvrier allemand, même si on n'était pas, alsacien, on pouvait chanter la Marseillaise. Après, il dit qu'il a rencontré des Alsaciens. Donc, forte agitation chez ces marins, et donc, parmi ces marins, ils disent, après, qu'est-ce qu'ils font? Le 30, mutinerie, répression, il y en a 600 qui sont arrêtés, manifestation pour protester contre leur arrestation, tir de l'armée, un certain nombre de marins sont tués à cette occasion, et ensuite le mouvement, à partir du 4, commence à se développer dans l'ensemble de l'Allemagne, et donc, comme j'ai déjà dit, y compris en Alsace. Et en particulier, ces marins alsaciens qui sont à Kiel, eh bien, il reste une chose, c'est rentrer en Alsace. Donc il y a des trains qui arrivent, et on peut voir d'ailleurs dans la chronologie des événements de la mise en place, ça correspond à peu près à l'arrivée de groupes de marins. Et parmi eux, une figure qu'on va retrouver tout à l'heure, qui m'a longtemps intrigué parce que je n'ai pas immédiatement, j'ai même énormément de temps à identifier, qui va être l'une des grandes figures du Conseil de soldats et d'ouvriers de Strasbourg, Wendelin Thomas, qui était un ouvrier d'origine originaire du nord de l'Alsace, à côté de Luxembourg, Altenbach, c'est ça, dont sa famille était d'Altenbach, mais lui était né à Thionville, et assez jeune, il était parti comme ouvrier à Kiel. Comme ouvrier dans la construction navale, et donc après il avait été naturellement recruté dans cette marine allemande, et lui était un militant extrêmement politisé, qui était social-démocrate, et plutôt de tendance de la gauche spartakiste, de ce qu'on va appeler les spartakistes, et qui revient donc, et qui va jouer un rôle important dans le mouvement, on le retrouvera plus tard. Donc voilà, donc le mouvement qui se déclenche partout, comme une traînée de poudre, mise en place du Conseil de soldats et d'ouvriers, dans une conjoncture déjà très tendue en Alsace, puisqu'il y a un profond malaise. Il y a le régime de dictature militaire qui a été imposé depuis le 14. L'Alsace est sous un régime de dictature militaire. L'Alsace est quasiment sur le front, enfin l'arrière immédiat, du front, donc une forte pression militaire, c'est-à-dire que ça veut dire des officiers, des soldats qui sont cantonnés dans la plupart des villes, mais aussi de très nombreux villages qui pèsent beaucoup sur la population. Ça bloque effectivement une grande partie de l'appareil industriel. Ça fait augmenter les prix, donc tension entre civils et militaires, puisque d'autant plus que en gros, à partir de 10, mais c'est surtout en 18, on est dans une situation, on est à la limite de la situation de famine. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population est dans une situation extrêmement délicate du point de vue de son alimentation. Les prix augmentent de façon vertigineuse. Il y a d'ailleurs, pendant l'été 18, des manifestations, en particulier, je crois que c'est à Sainte-Marie-aux-Mines, de femmes qui protestent contre la vie chère. Il y a la multiplication, vous avez regardé dans les comptes rendus des tribunaux de condamnation pour vol alimentaire, de gens qui volent des aliments. Donc cherté des prix, situation de famine, profond mécontentement social, et puis on a la marre, puisque on meurt de faim, on meurt à la guerre. Souvent les femmes ne trouvent pas de travail, parce que souvent elles étaient embauchées à la place des hommes dans les usines, vous savez, c'est maintenant l'imagerie d'Épinal en ce qui concerne la guerre de 14, mais les femmes, comme l'appareil industriel est bloqué, bien on les envoie par exemple en Saxe souvent. Les femmes allemandes sont obligées, elles disent, ben voilà, nos maris sont à la guerre, hein, ils sont sur le front de, en général sur le front de l'Est, et puis nous on est obligés d'aller travailler en Saxe pour participer à l'effort de guerre, loin de nos familles et évidemment loin de nos maris. Donc une situation de crise sociale profonde, de profond mécontentement, qui se radicalise effectivement avec le recul de l'armée allemande. Et dans ce contexte, effectivement, il y a une opération qui est menée par l'Empire, c'est de faire une concession qui avait été, ou de donner jour à une revendication très ancienne de la représentation démocratique de l'Alsace, c'est-à-dire des membres du Landtag, et en particulier de la deuxième chambre, celle qui est élue au suffrage universel, qui demandait l'égalité de traitement de l'Alsace avec les autres Länder, avec les autres États allemands. C'est-à-dire qu'enfin, on leur concède une autonomie réelle pour qu'ils avaient revendiquée depuis très longtemps, en 1911, avec la constitution qui crée justement le Landtag. Il y avait effectivement un début de concession, mais ce n'était pas exactement le même régime que les autres Länder. Mais ça se passe en, je ne sais plus la date en fait, ça se passe en octobre, c'est déjà mi-octobre, 15 jours plus tard, effectivement, ou 3 semaines plus tard, il y a cette vague révolutionnaire qui traverse l'Alsace, et les conseils de soldats s'emparent partout du pouvoir. Alors quelles sont les revendications? C'est important de revoir quelles sont les revendications. Ce sont essentiellement des revendications à caractère mais je n'ai pas le temps de détailler sur la façon dont ça se propage. Il y a une fameuse description de Charles Stimler dans son journal qui a été publié, qui vient d'être, il y a 3-4 ans, republié dans une version plus complète qui montre bien comment ça se passait. Je cite quand même, parce que c'est dans notre temps, écrit Charles Stimler, une députation des conseils. Bon, là, on a traduit soviet, ce qui est encore une fois source de. Avait pris place, et à chaque station, un type descendait sur les voies pour haranguer les soldats qui gardent les gares. Ceux-ci écoutaient les boniments d'un air aigri, mais se prêtaient sans objection à la cérémonie de l'ablation des cocardes et des épaulettes. C'est-à-dire que ça se traduisait d'abord, on enlevait tout signe de. Comment dire. Tout signe distinctif aux officiers, et très rapidement, effectivement, partout, les soldats prennent le contrôle des casernes, libèrent les prisonniers, obtiennent la suppression de tout signe distinctif ou tout signe de respect, en tous les cas en dehors du cadre de la caserne. Et très souvent, et partout où il y a encore des militants ouvriers, essentiellement le SPD, apporte son soutien au mouvement. Il y a par exemple une très belle description d'une manifestation à Guebwiller, soldats et ouvriers qui défilent dans les rues de la ville avec comme liberté, libération des prisonniers, liberté d'expression et de pensée, levée de la censure, rapport d'égalité entre les hommes de troupes et les officiers, en tous les cas en dehors des cadres, dans le cadre des, des casernes et partage de l'autorité entre les officiers et les soldats. Alors, ce mouvement-là, donc extrêmement puissant, fait l'objet de discussions, puisqu'on a, c'est là que, par exemple, Pechler ou Fessel voit la main du grand état-major, comme on dit, allemand, en disant, ben voilà, c'est le grand état-major qui utilise les conseils de soldats pour maintenir, comment dire, l'Alsace dans le cadre allemand. En fait, si on regarde de près, c'est un mouvement complètement spontané, mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'état-major et Hindenburg donnent l'ordre effectivement aux officiers pour essayer d'enrayer le mouvement, de trouver un modus vivendi avec ses conseils de soldats et d'ouvriers. Donc effectivement, des textes qui disent qu'il faut composer avec les conseils de avec les conseils de soldats. Donc maintenant, le troisième point, c'est sur la dynamique du mouvement. Parce que je pense que c'est très, très intéressant de voir quelle est la dynamique du mouvement. C'est-à-dire que, donc à partir du 9, il y a de fait vacance totale du pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir, hein, c'était une dictature militaire. À partir du moment où l'armée s'effondre, il n'y a plus de pouvoir. Donc le pouvoir, le seul organe qui reste quelque part, c'est effectivement ce fameux Conseil national qui a été proclamé une quinzaine de jours auparavant, hein, c'est-à-dire le fameux Nationalrat qui regroupait les deux chambres, plus il s'était associé l'ensemble de la représentation parlementaire au Reichstag, c'est-à-dire les députés alsaciens avaient été associés pour constituer ce conseil national, et ils constituent un espèce de gouvernement, mais n'embrayent en rien sur la réalité. La réalité du pouvoir, elle appartient, enfin, elle s'organise, plus exactement, pour être très précis, autour des conseils de soldats qui contrôlent quelque part la situation. Et d'ailleurs, il est extrêmement intéressant de voir que, au-delà des revendications démocratiques que j'ai citées, les principales préoccupations des conseils de soldats, c'est le rétablissement de l'ordre, parce que commencent très rapidement des scènes de pillage, un peu partout. On a vu qu'on était dans une situation de pénurie, voire de misère. Donc, naturellement, les gens, surtout qu'il y a des casernes, par exemple à Strasbourg, là-bas où il y a Sciences Éco, enfin l'école où il y avait les fournitures, il y a des scènes de pillage partout. Dans toute l'Alsace commence des scènes de pillage, et une des premières mesures prises par ces conseils de soldats, c'est effectivement d'essayer de mettre de l'ordre et de maintenir l'ordre. Et deuxième intervention forte, et qui est essentielle aussi, c'est la question du ravitaillement. C'est-à-dire que ces conseils de soldats vont essayer, à travers le contrôle qu'ils ont notamment sur les stocks militaires, d'assurer et de continuer à assurer le ravitaillement de la population. En particulier, par exemple, à Strasbourg, il y a une commission du ravitaillement mise en place par le conseil d'ouvriers et de soldats, qui est dirigé d'ailleurs par l'une des figures du socialisme strasbourgeois, qui est Böhl, hein, qui est un badois installé à Strasbourg, mais qui est l'une des grandes figures historiques du socialisme alsacien, en tous les cas de cette époque, qui est en charge d'assurer cette mission de ravitaillement. Donc ça, c'est l'essentiel. Alors après, ça joue un peu par effet de, comment dire, comme dans un jeu de quilles, c'est pas exactement le jeu de quilles, puisque c'est le mouvement inverse, où les éléments s'adossent les uns aux autres. C'est-à-dire que le conseil de soldats va engendrer, partout où il y a encore des ouvriers, des conseils d'ouvriers. Donc ces conseils d'ouvriers vont surtout exister où? Dans les grandes villes d'Alsace, hein, à Strasbourg, à Schilfigheim, à Colmar, à Mulhouse, à Guebwiller, pour aller vite, et puis en Lorraine, à Metz, et puis dans l'ensemble du bassin sidérurgique et du bassin minier. C'est des points forts, comment dire, du, euh,
puisque on ne peut pas compter les ouvriers non plus sans ouvriers. Donc vont engendrer des conseils ouvriers, et ces conseils de soldats et ouvriers vont travailler quelque part la main dans la main. Il faut savoir qu'on est à cette époque, ce qui est un peu différent de la situation actuelle, dans un contexte où il y a un puissant mouvement ouvrier en Alsace, avec un puissant mouvement syndical sur les trois départements, ce qui deviendra les trois départements, il y a 140 000 syndiqués, c'est un mouvement relativement puissant. Les grandes villes sont, en tout cas électoralement, même si avant 18, ils ne contrôlaient pas les villes majoritaires dans les villes. Donc il y a c'est une vraie force dans le pays. Et donc, le mouvement de soldats engendre mouvement ouvrier, des conseils ouvriers, qui travaillent en étroite relation avec les conseils de soldats et qui va provoquer un mouvement de rénovation ou de restructuration des conseils municipaux, puisque le seul pouvoir, il n'y a plus de pouvoir central, le seul pouvoir, c'est le pouvoir municipal. Et donc, ça va se traduire presque mécaniquement par. Alors, dans les villes où sont les socialistes qui étaient déjà électoralement, même s'ils ne contrôlaient pas les municipalités, parce que c'était des systèmes électoraux faisaient que c'est pas, on pouvait avoir la majorité au niveau du vote sans être nécessairement majoritaire au niveau du conseil, ce sont en gros les socialistes qui contrôlent dans les grandes villes le pouvoir municipal, donc en étroite relation avec les conseils de soldats et d'ouvriers. Et puis, dans les autres villes où il n'y a pas de tradition, où les traditions du mouvement ouvrier, où le poids du mouvement ouvrier est moins fort, bien ça va se traduire mécaniquement par l'élimination des représentants, des maires en particulier, comme par exemple à Saverne ou à Célestat, c'était des maires qui étaient considérés comme pro-allemands et qui sont chassés et remplacés par des gens qui apparaissent comme plus neutres. En général, d'ailleurs, on retrouve sont des médecins ou des industriels. Par exemple, à Célestat, c'est Wiederkehr, qui était un industriel qui va assurer la transition. À Saverne, je crois que c'est un médecin. Donc, restructuration aussi du pouvoir municipal. Et enfin, donc après, effectivement, en dehors des... Quelque part, il y a division autour des objectifs du mouvement. C'est-à-dire que tout le monde ne met pas exactement les mêmes objectifs en ce qui concerne l'avenir de l'Alsace et de la Lorraine. De toute façon, il y a une grande partie qui sont extrêmement effrayés par la tournure que prennent les événements. Bon, ça rappelle quand même, c'est un an après la révolution d'octobre. On a peur que le mouvement révolutionnaire qui a triomphé en Allemagne, en Russie, gagne l'Alsace, donc ça va se traduire par deux choses. C'est-à-dire, d'une part, et qu'au niveau des socialistes, le mouvement socialiste alsacien est aussi profondément divisé quant à cette question. Et pour aller vite, disons, la majorité du mouvement, du mouvement socialiste alsacien est pour plutôt réformiste, voire très réformiste et pas du tout sur la ligne, sur une ligne radicale. Ce qui va se traduire donc, ça va se traduire dans les municipalités par la création d'un embryon de force militaire alternative à celle des conseils de soldats. C'est-à-dire, ça va être les fameuses gardes civiques. Un peu partout, et en particulier dans toutes les grandes villes et dans les petites villes, vont se constituer des gardes civiques armés mal armés, mal équipés, mais qui sont quand même aussi un instrument dont se dotent les municipalités et les notables pour ne pas être tributaires uniquement des soldats pour maintenir l'ordre. Ça se traduit d'ailleurs aussi sur le plan judiciaire, c'est les tribunaux qui sont mis en place, c'est le tribunal mixte entre l'armée et les municipalités pour régler les choses d'urgence, les affaires urgentes, et on a aussi la même chose, y compris sur l'appareil judiciaire. Tout ça, c'est encore une fois, c'est une période très courte, on est sur des choses. Puis, dernier point, c'est que ça va amener aussi, grande peur du désordre, plus de pouvoir, l'armée allemande s'est effondrée. Et donc, on va multiplier les délégations auprès de l'armée française pour qu'elle accélère sa marche sur l'Alsace. C'est-à-dire que, théoriquement, l'Alsace devait être dans les plans de marche de l'armée française, c'était seulement au 25 novembre, et on va accélérer pour mettre un terme, disons, au désordre. Et effectivement, l'état-major français est extrêmement inquiet de ce qui se passe en Alsace. Donc j'ai recueilli, notamment dans les archives militaires, à tous les niveaux, comment dire, de la hiérarchie militaire, toute une série de prises de position ou de documents qui témoignent de l'inquiétude de l'armée, qui en plus sont contactés par un certain nombre de notables, soit bourgeois, soit socialistes, pour accélérer, pour intervenir le plus rapidement en Alsace et mettre un terme au mouvement. C'est-à-dire que Perrot, par exemple, à Strasbourg, envoie des émissaires, mais Richard, pareil, à Colmar, ou Vicky à Mulhouse, envoie des émissaires auprès de l'armée française. Donc c'est pas seulement les bourgeois, c'est aussi les socialistes qui demandent à l'armée française d'accélérer sa marche pour mettre un terme au mouvement. Et ensuite, dernier élément, toujours dans la... Donc c'est il n'y a plus de pouvoir au niveau central, il y a du pouvoir au niveau local, c'est... Donc ça s'emboîte un peu, je trouve pas la métaphore, hein, du conseil de soldats, conseil d'ouvriers, conseil municipaux réformé, garde civique, et dernier élément sur lequel ce serait intéressant de voir d'un peu plus près la constitution un peu partout, de façon plus ou moins spontanée, du comité de réception des troupes françaises. Et on prépare déjà l'arrivée triomphale des troupes françaises. Ça va jouer un rôle très bon. Pour Strasbourg, par exemple, Fritz Kiefer, qui est l'un des grands contributeurs du musée historique de Strasbourg, et qui était une figure de la tendance francophile nationaliste en Alsace sous le Reichsland, qui était un grand collectionneur d'uniformes français, c'est pour ça qu'on a une très belle collection au musée historique, commence à organiser la réception des troupes françaises. On peut dire que ça participe aussi du jeu du pouvoir, et on va voir qu'ils vont jouer un rôle relativement important, si ce n'est sur le plan politique, au moins du point de vue symbolique. Donc ça, c'est pour la dynamique du mouvement, avec des situations extrêmement tendues, puisqu'il y a effectivement toujours ce contexte social. Il y a même des guerres qui commencent à s'esquisser. En Alsace, c'est essentiellement les cheminots. Alors, les cheminots, c'est catastrophe. Les cheminots veulent se mettre en grève. Les ateliers des chaînes veulent se mettre en grève. Catastrophe, pourquoi? Parce que, et c'est la fragilité du pouvoir, les soldats qui ont organisé des conseils rêvent à quoi? Bon, il y en a une partie qui rêve à la révolution, qui veulent faire la révolution. Mais la grande majorité veut rentrer chez eux. S'il n'y a plus de train, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Et donc là, il y a un important travail de médiation qui est fait par l'un des chefs de la social-démocratie, des syndicats strasbourgeois, et qui est aussi député, au Landtag, qui est Laurent Meyer, qui est le secrétaire de l'union départementale du syndicat, qui vont faire un actif travail de médiation auprès des cheminots pour qu'ils ne fassent pas grève, pour ne pas rajouter, ce qui est perçu comme l'anarchie, et de l'autre côté, une situation à peu près similaire et convergente en Lorraine. Et là, en Lorraine, la grève, s'installera, et de façon d'ailleurs durable, et au-delà, de l'arrivée des troupes françaises, puisque immédiatement après l'arrivée des troupes françaises, la plupart du bassin, l'essentiel du bassin minier et du bassin sidérurgique, seront complètement paralysés par un mouvement de grève extrêmement important et auquel un terme ne sera donné qu'à travers une intervention extrêmement vigoureuse, avec la mise en place de conseils de soldats, de conseils de fabrique, etc., vigoureuse de l'armée française qui occupe militairement la zone industrielle. Il y a des piquets qui sont mis devant les usines il y a des officiers qui sont référents sur chaque entreprise pour mettre un terme au mouvement.